dans l'Express.
Accent d'Europe, Catherine Potet.
Bonjour, l'Europe fête ses 50 ans. Comment a-t-elle influé sur la protection de l'environnement ? Reportage en France et aux Pays-Bas. Des écoles pour le développement affectif et social en Allemagne. Elles sont ouvertes aux enfants en échec scolaire. Reportage de Chantal Schlicht de la Deutsche Welle. Le portrait d'Accent d'Europe. Aujourd'hui, le peintre et sculpteur espagnol Juan Muñoz. Enfin, carnet de voyage, nous traverserons la Transnistrie.
Et c'est Bruxelles, le monde appelle.
Accent d'Europe célèbre les 50 ans de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'environnement, un domaine sur lequel l'Europe a pesé de tout son poids. En France, par exemple, 80% des lois concernant l'environnement découlent du droit européen, qu'il s'agisse des contraintes imposées aux industries sur leur rejet de CO2 ou des normes applicables aux constructions neuves, tout découle de directives européennes. Indispensables donc, mais sans doute ni assez ambitieuses ni assez contraignantes, même si le sommet européen des 8 et 9 mars dernier peut tout de même représenter une petite révolution en la matière, comme Morgane Créache du réseau Action Climat l'a expliqué à Frédéric Lebel.
En matière de promotion des énergies renouvelables, il y a bien un avant et un après 9 mars. Avant le sommet, les objectifs étaient seulement indicatifs, donc aucun risque pour un État de se retrouver à signer devant la Cour de justice des communautés européennes. Depuis le 9 mars, l'objectif de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020 est contraint. On ne pourra plus tricher, ce qui a donné lieu à un certain nombre de réticences nationales. Morgane Créache.
Ça a été une bataille. Beaucoup d'États membres étaient réticents, notamment la France, parce que la France a cherché à imposer coûte que coûte son nucléaire, en fait, et elle voulait parler d'un objectif plus global sur les énergies peu carbonées, donc incluant le nucléaire, le captage et le stockage du carbone. Certains pays d'Europe de l'Est aussi étaient réticents à adopter un objectif contraignant, puisqu'ils considéraient que les énergies renouvelables, c'était plus cher, que certains fonctionnent encore au charbon, alors que le charbon est le plus émetteur des combustibles fossiles en termes de dioxyde de carbone.
Mais promouvoir de nouvelles énergies propres ne servirait à rien si on ne cherchait pas à réduire notre consommation d'énergie fossile. La directive sur la performance énergétique des bâtiments a dès 2002 voulu introduire des normes, les fameuses réglementations thermiques. En théorie, on ne peut plus construire du neuf comme on veut, mais malheureusement, pour Morgane Créache, aucune contrainte de réhabilitation n'a été imposée aux immeubles anciens.
Les bâtiments anciens sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre parce qu'ils ont une mauvaise qualité thermique. Donc il aurait fallu que la directive concerne à la fois le neuf mais également l'ancien et pose une obligation de rénovation à l'achat. Ça n'a pas été fait. Or, le parc de bâtiments et le renouvellement du parc est de 1% par an. Donc si on se contente d'appliquer cette directive en France, il faudra 100 ans pour rénover l'ensemble du parc. 100 ans, c'est beaucoup trop long pour lutter contre le changement climatique. On a à peine 10 ans devant nous pour adopter les mesures à la hauteur en fait, du défi.
Pour l'ancien, la directive européenne a tout de même abouti à la création d'un diagnostic performance énergétique désormais obligatoire à la vente et bientôt à la location pour tous les logements. Une espèce de carte d'identité énergétique réalisée par un professionnel. Diagnostic presque en temps réel avec Stéphane Eckert de la société BCTI.
Donc ici nous sommes dans le salon, je vais relever la superficie des murs donnant sur l'extérieur, inspecter le type d'isolation, donc intérieur, là on est directement sur la structure, le mur intérieur n'est pas isolé. Je vais ensuite ouvrir la porte-fenêtre, me rendre sur le balcon et constater qu'on a un parement en pierre extérieure. Donc pas d'isolation. En revanche, le mur est d'une épaisseur de 50 cm, ce qui garantit un bon degré de résistance à la déperdition énergétique. En quelle année votre chaudière a été installée ? Le savez-vous ?
Le chauffage est électrique, l'eau est fournie grâce à un ballon d'eau chaude. L'appartement a été acheté en 1991 et la chaudière existait déjà.
En général, le changement d'un ballon d'eau chaude se justifie lorsque le ballon a environ une quinzaine d'années. En fait, sa résistance interne est tellement entartrée que pour chauffer le même volume d'eau, il va dépenser 2 à 3 fois plus d'énergie. Donc, le changement de ce type de système est rentabilisé au bout de seulement quelques années. Là, je passe à l'inspection des modes de chauffage. Le chauffage dans cet appartement est réalisé par convection. Ce sont des convecteurs électriques qui sont assez vétustes et qui doivent avoir 20 ou 25 ans.
Donc au final, ça donne quoi? Une note pour cet appartement?
Ici, nous obtenons une note énergétique de F. L'étiquette énergétique étant classée de A à G. G pour les biens énergivores et A pour les biens économes.
Enfin, on ne peut parler de la lutte contre le réchauffement climatique sans évoquer ce vaste marché de quotas d'émissions de dioxyde de carbone qui concerne 11 000 installations industrielles européennes. Mais encore une fois, la directive est restée trop floue, laissant aux États la liberté d'établir le nombre de quotas à distribuer. On voit le résultat.
Les États membres n'ont pas joué le jeu, ont attribué beaucoup trop de quotas à leurs industriels, ce qui fait que ce marché, pour la première période d'application 2005-2007, a été inondé de quotas et forcément le prix du quota de CO2 est descendu à 1 euro sur le marché aujourd'hui. Pour la deuxième période, la Commission européenne a décidé de resserrer la vis, ce qui est bon puisque le marché est en train de s'écrouler. Donc on peut imaginer que les plans des États membres vont être beaucoup plus sérieux au niveau des quotas qu'ils attribuent à leurs industriels et qu'on va voir le prix du quota remonter sur le marché.
Verdict. En 2008, lorsque les programmations de quotas pour 2008-2012 seront publiées.
L'Europe manque-t-elle d'ambition en matière de protection de l'environnement? En tout cas, elle est la cible des Pays-Bas qui ont le sentiment d'être freinés dans leur élan par l'Union européenne. Exemple avec les filtres à carbone pour les véhicules diesel. Explication de Sabine Sessou, notre correspondante à Amsterdam.
La haie voulait rendre les filtres à carbone obligatoires sur tous les véhicules diesel neufs. La mesure a été bloquée en mai dernier par le commissaire européen à la politique industrielle. Le principe de libre marché empêche les Pays-Bas d'imposer des normes nationales aux constructeurs automobiles. Peter Van Riel, l'ancien ministre néerlandais de l'Environnement, a trouvé cette position absurde et schizophrénique. Sa révolte n'a servi à rien. Bruxelles ne veut pas entendre parler des filtres à carbone. Pourtant, les objectifs de l'Europe contre la pollution sont pris très au sérieux par les Pays-Bas. Des subventions aux filtres à carbone existent depuis 2 ans. Tous ceux qui en installent sur leur voiture reçoivent entre 400 et 600 euros du trésor public. Pour ne pas aggraver la pollution, aucune nouvelle route n'a été construite ces 3 dernières années. Des dizaines de projets immobiliers ont aussi été suspendus. C'est unique en Europe, des sociétés de construction ont intenté une 40aine de procès à l'État. Le secteur privé accuse le gouvernement de l'empêcher de faire des affaires au nom de la directive européenne sur la qualité de l'air.
Accent d'Europe sur le chemin de l'école en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. Dans ce land, les enfants en échec scolaire ont la possibilité d'entrer dans une école pour le développement affectif et social. Ces enfants ont quitté le circuit scolaire classique faute d'y trouver leur place et ces établissements leur offrent donc une deuxième chance. Ils y apprennent à lire, à écrire, mais ils apprennent aussi le respect et les limites à ne pas dépasser. Reportage dans l'une de ces écoles de Chantal Schlicht de la Deutsche Welle.
Le collège Martin Luther King à Rösrath, une petite ville à l'est de Cologne. Des bâtiments clairs, une cour accueillante, un terrain de foot et tout près, la forêt. Visite des lieux en compagnie de Dieter Lausus, le directeur de l'école.
Cette pièce, c'est le forum. C'est là qu'on commence la semaine, tous ensemble, les 120 élèves et le personnel, 30 adultes. On parle de tout, des problèmes, des rendez-vous de la semaine, etc. C'est un rituel et les rituels sont très importants pour nos élèves.
Des élèves de 11 à 17 ans, issus pour la plupart de milieux précarisés ou de parents démissionnaires. Tous présentent de graves dysfonctionnements sociaux. Si les filles ne sont qu'une dizaine ici, c'est qu'elles concrétisent par la déprime ce que les garçons expriment par la violence. Mais en principe, personne ne reste longtemps au collège, Dieter Lausus.
L'objectif, c'est de ne les garder qu'un certain temps ici et de les renvoyer ensuite dans l'école d'où ils viennent.
Objectif pas toujours atteint.
C'est de plus en plus difficile parce que le milieu et les problèmes des enfants sont plus complexes et parce qu'ils arrivent souvent beaucoup trop tard chez nous en quatrième ou en troisième, après avoir été baladés à travers toutes sortes de structures. Il est souvent difficile donc de faire bouger quelque chose dans le temps qui reste jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
En attendant, il s'agit de redonner confiance en eux aux élèves, tout en leur apprenant à respecter les principes fondamentaux de la vie sociale et le règlement de l'école. Tout manquement étant bien sûr suivi de dialogue et de sanctions. Aussi, enseignants et spécialistes ne travaillent jamais avec plus de 8 élèves à la fois, comme ici, à l'atelier de menuiserie.
Vous voyez ici, on travaille en petits groupes, comme dans les classes, avec 2 professeurs. Les plus jeunes apprennent des techniques simples et les plus grands se préparent à la vie professionnelle. S'ils font un apprentissage, cela leur servira.
Le suivi social est assuré par un personnel spécialisé disponible dès le matin. Dieter Lausus.
Ici, c'est le kiosque, la cafétéria. Lorsque les élèves arrivent tôt, ils peuvent prendre un thé ici et parler avec les éducateurs sociaux. Ils sont 2 et prennent les enfants en charge individuellement, travaillent avec les parents et établissent les contacts avec les autres services sociaux avec lesquels nous collaborons étroitement.
Collaboration étroite aussi avec la police, avec le policier du collège, que voilà justement.
J'ai ici la photo d'un suspect qui pourrait être un élève de l'école. En fait, il lui ressemble, mais ce n'est pas lui.
Pour les éducateurs, il s'agit de développer la stabilité chez l'enfant, mais également le sens de la responsabilité. La gestion de la cafétéria est un bon apprentissage.
Il se charge des courses, de la comptabilité. Il fixe les prix et empoche les bénéfices à la fin du mois s'il y en a.
Les activités physiques, bien sûr, occupent ici une place importante.
La cuisine. On cuisine ici ensemble, ou disons, la moitié cuisine et invite l'autre moitié à manger. Notre atelier de peinture. Ça, c'est notre salle de musique.
Une classe de grands, 6 garçons et une fille autour de Hans-Georg Bever, le professeur. 3 d'entre eux se présentent.
Je m'appelle Sébastien, j'ai 17 ans et je suis ici parce que je pète toujours les plombs. Je vais essayer de m'en sortir avec mon orchestre et autrement je voudrais être éducateur.
Daniel, j'ai 16 ans, j'ai été viré de 2 écoles à cause des bagarres et du stress que j'ai causé aux profs.
Moi, je suis Pierre. Si je suis ici, c'est parce qu'avant je me bagarrais tout le temps et j'embêtais les profs. Ici, je trouve tout le monde sympa, les profs, les élèves.
Daniel aimerait passer son bac, Pierre se lancer dans les maquettes. Des projets qui, s'ils se réalisent, font le bonheur de Dieter Lausus.
Le plus beau moment que j'ai vécu ici, c'est lorsqu'un jeune est venu se présenter pour faire son service civil chez nous. Voilà, je suis Sébastien, c'est ce qu'il nous a dit. C'était un de nos anciens élèves, il est aujourd'hui maître couvreur. Ça, c'est magnifique pour nous et on se dit super, vraiment.
Mais même avec la meilleure des volontés et des structures de rattrapage scolaire, rien n'est gagné. Beaucoup d'élèves vivent l'après-midi en bande et retrouvent les tentations, alcool, drogue et criminalité.
Le portrait d'Accent d'Europe avec aujourd'hui le sculpteur et dessinateur espagnol Juan Muñoz, auquel le musée de Grenoble rend hommage, via une exposition qui permet de suivre le parcours de cet artiste prolifique, sensible à la littérature et au cinéma anglo-américain. Portrait signé Elisabeth Le Quéré.
Juan Muñoz est né à Madrid en 1953, en pleine époque franquiste. Il est le 2e enfant d'une fratrie qui en compte 7. Une famille somme toute normale. À la maison, sa mère qui ne travaille pas passe son temps à changer les meubles de place et à inverser les chambres des enfants. Juan Muñoz grandit donc dans un sentiment d'instabilité qui va profondément le marquer. Il n'aura alors de cesse de jouer avec les apparences et le changement soudain. Très vite, pour échapper à la dictature de Franco, il choisit de partir à Londres. Il a l'impression que c'est outre-Manche que les choses se passent. À la mort de Franco, il décide de rentrer chez lui. Il mène alors une vraie révolution dans le monde de la peinture, puisque c'est lui qui, dans les années 80, va renouer avec le langage de la figuration et replacer la narration au centre de son œuvre. Il inspire alors toute une génération d'artistes et aide l'Europe un peu dépassée en matière d'art contemporain à se refaire une santé face aux États-Unis. Son univers est très marqué. Chez Juan Muñoz, tout ce qui est séduisant peut d'un seul coup basculer dans l'horreur. Son œuvre est énigmatique. Juan Muñoz avait toujours le souci de laisser planer un mystère. Mystère qu'il n'aura jamais eu le temps de révéler, puisqu'il est mort subitement en 2001, à l'âge de 48 ans, quelques jours seulement avant la présentation d'une grande installation à la Tate Modern de Londres.
Le disque choisi aujourd'hui par Accent d'Europe nous conduit en Roumanie avec les Night Losers. Avec notre carnet de voyage, nous sommes cette semaine en Moldavie, l'un des pays les plus pauvres du continent européen et qui est de plus confronté à la sécession de la région orientale de Transnistrie, une région sous contrôle russe où s'est rendu Fabrice Dubessé, grand voyageur amoureux des pays de l'Est. Il raconte au micro de Frédéric Lebel.
C'est le seul État non reconnu en Europe. En fait, c'est une mince bande de terre située à l'est de la République moldave qui a fait sécession en 1992 après une guerre civile assez sanglante. Et donc c'est une région voilà qui est plus ou moins dans l'orbite de Moscou en fait et qui nous a attirés en fait puisque là pour le coup vous êtes sûr de trouver aucun touriste.
Alors dès le franchissement de la frontière le ton est donné hein.
Voilà, lorsque vous arrivez de Chisinau vers la Transnistrie, donc vous arrivez à un checkpoint carrément. Vous avez un premier barrage de l'armée moldave. Ensuite, un deuxième barrage de l'armée transnistrienne. Et là, c'est la fouille complète du véhicule, etc., par des soldats. Et lorsque nous sommes arrivés la première fois, en fait, les soldats essayaient de nous extorquer de l'argent, forcément. Vous savez, le passeport français. Et heureusement, nous avions auparavant acheté en France plusieurs bouteilles de vin bon marché que nous avions entreposées sous notre siège au cas où justement ça débloque pas mal la situation vu la renommée du vin français, etc. Surtout lorsque vous dites que c'est une bouteille qui coûte très cher. Et donc en fait, voilà, ils nous ont laissé passer sans autre demande pécuniaire.
Et c'est un État, enfin en tout cas une région officiellement, un État autoproclamé où les forces de l'ordre sont omniprésentes.
Ah oui, à Tiraspol, la capitale donc de la Transnistrie, vous voyez des soldats, notamment de l'armée russe, parce qu'il y a une armée russe qui stationne. Et lorsque vous arrivez à Tiraspol, on vous demande, avant de pouvoir prendre une chambre d'hôtel, d'aller vous inscrire en fait au bureau de police le plus proche. Donc vous payez une taxe, vous avez un reçu, et ensuite vous pouvez prendre une chambre à l'hôtel. Et le lendemain, vous devez, sous 48 heures, aller vous inscrire dans le bureau de l'immigration de la ville. Donc c'est assez lourd.
Beaucoup de tracasseries comme ça au quotidien ?
Non, il vaut mieux éviter de sortir l'appareil photo devant le palais présidentiel. Ça nous est arrivé la première fois et des gens de la sécurité ont dévalé l'escalier du palais présidentiel. Donc on était en voiture, on est parti vite fait, ce qui n'est pas très peut-être malin, mais bon, c'est assez sensible.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot, mise en onde de Cyril Etienne. Demain, vous retrouverez Frédéric Lebel.